Avec Mgr Jacques Perrier.
Pour la quatrième fois, nous nous retrouvons à la basilique supérieure de l'Immaculée Conception à Lourdes et nous sommes à quelques semaines de la solennité de l'Immaculée Conception et, bon, ça convient bien, me semble-t-il, de regarder ces vitraux qui cherchent à illustrer comment s'est formée la foi catholique en cette réalité qu'est l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, à un point tel qui est tellement un privilège, tellement unique que la Vierge peut dire qu'elle est elle-même l'Immaculée Conception. J'ai essayé de m'en expliquer dans une émission précédente. Alors nous arrivons à la troisième fenêtre à droite. Donc à droite, c'est l'histoire biblique du Nouveau Testament et l'histoire de l'Église. Et alors, un des soucis de ceux qui ont conçu cet ensemble de vitraux, c'était de montrer que, certes, le dôme comme dogme, etc., évidemment, le fait de l'Église de Rome, bon, a été promulgué par le pape lui-même, etc. Bon. Et donc, comme dogme, ça ne sera jamais tout à fait admissible par nos frères orientaux, orthodoxes, bon. Mais que la foi réelle en la toute sainteté de la Vierge est vraiment un bien commun. Et alors, c'est pour ça qu'une fenêtre entière sera consacrée à illustrer ce thème. Alors, il est illustré par quatre pères de l'Église, deux latins et deux grecs. Alors, deux latins, saint Ambroise et saint Augustin. Il y a un lien de l'un à l'autre, puisque c'est Ambroise qui a baptisé Augustin. Bon. Et puis deux grecs, Chrysostome, celui qui a bouche d'or, hein, et saint Épiphane. Alors, il ne faut pas demander à chacun d'eux de vous formuler le dogme comme dogme, mais quand même, les formules sont assez claires, hein, les uns et les autres. Pour saint Augustin, il dit « Quand il s'agit du péché, je ne veux point, à cause de l'honneur du Seigneur, qu'il en soit question pour la Mère de Dieu. Nous savons qu'il lui a été donné d'autant plus de grâce pour vaincre le péché de toutes parts, qu'elle a mérité de concevoir et d'enfanter celui qui, évidemment, ne contracta jamais de péché. » Voilà. Donc, quand il s'agit du péché, je ne veux point qu'il en soit question pour la Mère de Dieu. Alors, on peut dire que c'est une abstention. Je ne veux pas qu'il en soit question. Ce n'est pas une affirmation positive. Hein. En tout cas, je ne veux pas qu'il en soit. Et ce sera la position de l'Église pendant très longtemps. Quant à Ambroise, qui d'une certaine façon est son père, sacramentellement parlant, il disait de Marie qu'elle était non corrompue, incorrupta, integra, illibata, immaculata, donc il y a même le mot lui-même, bon, les quatre mots finalement, reviennent à dire à peu près la même chose. Voilà. Quant aux Grecs, alors saint Épiphane, lui, il dit qu'elle a été, par grâce, elle a été indemne de toute faute, de tout péché. Et puis, le père de saint Jean Chrysostome, lui, il dit « Qui est plus saint que Marie ? Ni les anges, ni les trônes, ni les chérubins, ni les séraphins. Personne, rien, aucun n'est plus digne, n'est plus saint. » Que naît la Vierge Marie. Et d'ailleurs, c'est l'expression classique, traditionnelle, disons, en Orient, pour parler de la Vierge Marie, on dit la toute sainte, la Panagia. Toute sainte, toute sainte, c'est pas très loin quand même aussi de notre mot, là, chef-d'œuvre de la grâce. Toute sainte, il y a vraiment en elle que de la sainteté, il n'y a pas l'ombre ni du péché, ni même d'un héritage, d'une séquelle du péché. Alors, voilà nos pères grecs. Ils ont les attributs, évidemment, qui leur correspondent. On les reconnaît, les Grecs, surtout en particulier, le fait qu'ils ne portent pas de mitre, bon, vous savez, une couronne plutôt. Bon. Quant aux latins, eh bien, ils vont porter, comme c'est des docteurs de l'Église, ils vont porter un livre, évidemment. Et puis, comme ce sont des évêques, eh bien, ils auront aussi le bâton du pasteur. Ça, c'est la fenêtre du bas. Au milieu, vous avez un livre ouvert et sur lequel est écrit en latin d'un côté et en grec de l'autre, il est écrit que l'Immaculée Conception, voilà. Voilà. Et c'est en des deux langues, Immaculée Conception, dans les deux langues, le latin et le grec, bon, ça représentait donc ce que Jean-Paul II appelait les deux poumons de l'Église, l'Orient et l'Occident. Ah, bon. Et à Saint-Pierre de Rome, d'ailleurs, le credo est écrit aussi de la même façon, en latin et en grec. C'est-à-dire, on n'a jamais perdu dans l'Église catholique l'espoir de la reconstitution de la pleine unité. D'ailleurs, il y a aussi des gens qui prient en langue grecque qui sont catholiques, bon, même si la majeure partie de ceux qui prient en langue grecque sont orthodoxes et donc sont séparés du siège de Rome. Donc voilà, le livre ouvert des deux côtés avec les deux inscriptions se faisant face avec les mots Immaculée Conception. Et puis tout en haut, alors c'est un concile. Alors, je ne sais pas très bien, en fait, parce qu'on voit qu'il y a des évêques occidentaux et orientaux. Bon, il y a même un oriental qui a sur le livre qui porte les mots Immaculée Conception. Bon, mais on a l'impression quand même que les uns sont là, les autres, que ça discute, mais que d'autres s'en vont. Peut-être ça évoque le fait que, ben oui, il faut prendre acte. Il y a une séparation tragique et qu'on n'arrive pas à résorber parce que des siècles de division, ça ne se comble pas d'un coup de cuillère à peau. Et donc, oui, il y a une séparation, il faut en prendre acte, on ne peut pas la nier. Mais, au fond, la foi est quand même commune, si ce n'est dans le dôme, du moins dans la réalité, de la pleine sainteté de la Vierge Marie. Voilà, donc pour cette troisième fenêtre, l'Église d'Orient et d'Occident, qui converge dans la reconnaissance de la pleine sainteté de la Vierge Marie, qui permet de dire à l'Église catholique qu'elle est, oui, l'Immaculée Conception.